tromperie, tromperie, trahison, trahison, abandon, abandon, colère, rancœur, violence, violence verbale, violence psychologique, parfois violence physique, rupture, déchirure familiale, etc., etc., etc. On ne va pas parler ici des mécanismes de la tromperie. Moi, ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est plutôt l'étape suivante. C'est qu'est-ce qui se passe après la tromperie? La plupart des gens qui trompent disent que finalement, après coup, comme on le dit dans la guerre des boutons, si j'aurais su, j'aurais pas fait. C'est-à-dire, si j'aurais su ce que ça fait, jamais je ne me serais laissé aller. Mais ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est d'examiner le mécanisme de finalement, je me suis laissé aller, je me suis laissé complètement emmener, et finalement, je me réveille après coup en disant, ah, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qui se passe ici, en ce moment? Pourquoi ce mouvement-là, il n'a pas lieu avant? Pourquoi il a lieu après? Alors, il n'a pas lieu avant pour plein de raisons, parce que finalement, ce qui emmène l'individu dans sa vie, bah, c'est son dimion, c'est son imaginaire. Et la personne, elle peut facilement imaginer que cette nouvelle relation qu'elle est en train d'expérimenter là maintenant, cette relation extra-conjugale, va lui apporter quelque chose dans le futur. Donc, son réguège, tout son appareil émotionnel et sensible qui lui donne un plaisir momentané, va rejoindre son dimion, son imaginaire, et donc l'emmener loin de sa réalité. C'est pour ça que les gens trompent. Parce que c'est plus vert ailleurs, parce que c'est mieux ailleurs, parce que ce sera toujours mieux, parce que ma vie n'est pas bien, parce que ça sera mieux comme ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on s'imagine. Mais ce qui est intéressant, c'est que après, c'est fini. Quand on remet les pieds par terre et qu'on est dans la réalité, là maintenant, il faut gérer le divorce, il faut gérer les enfants, il faut gérer la rancœur, il faut gérer la rupture, il faut tout gérer après. Et là, d'un seul coup, les gens se réveillent. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens se réveillent? Qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens se réveillent? Alors, c'est intéressant de voir que dans la majorité des cas, les conjoints, et notamment les madames, sont prêtes à pardonner. Mais elles ne pardonnent pas vraiment. Elles sont profondément blessées, profondément humiliées. La même chose, quand c'est le monsieur qui doit pardonner, il va pardonner plus ou moins facilement. Là, les hommes pardonnent moins, mais avant qu'ils le fassent, est-ce qu'on peut réellement parler de pardon? Et c'est sur ça que je voulais réfléchir avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Est-ce que quand il y a eu tromperie et trahison, on peut réellement parler de pardon? Ben, je vais vous dire un grand secret. Il n'y a pas de pardon sur la trahison. Il y a un pardon qui est un pardon en surface, mais il y a une blessure qui est d'une telle profondeur à l'intérieur qu'il n'y a pas réellement de pardon. Alors comment on va faire? Parce qu'il y a des couples qui tiennent, il y a des couples qui se reconstituent. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je voudrais avec vous aujourd'hui vous donner une première piste et vous expliquer pour nous les Juifs, qu'est-ce que c'est le pardon. Le pardon, voilà, on enregistre maintenant dans le mois de Elul, on est avant Rosh Hashanah, avant Kippour, donc c'est le moment de parler du pardon. Le pardon, c'est un processus. Et c'est un processus qui est long, parce que c'est un processus qui part d'abord du fait que l'autre va s'excuser, l'autre va changer son attitude, l'autre va chercher à inscrire dans la durée le changement d'attitude, et donc en fait, il va m'aider à faire un travail que je dois faire, moi, qui est de savoir comment ça se fait que je me suis retrouvé dans cette situation. Parce que souvent, on inverse les choses. On dit, mais finalement, les gens qui sont trahis fabriquent ces trahisons. Psychologiquement, c'est peut-être vrai. Mais d'abord, dans le processus de reconstitution du couple, il y a d'abord le fait que l'autre, il doit changer, qu'il doit inscrire dans la durée et qu'il doit montrer qu'il est réellement devenu quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est comme ça dans les lois de la Teshuvah. Dans les lois de la Teshuvah, c'est écrit qu'on doit réellement montrer qu'on est devenu un autre, qu'on n'a plus de rapport avec ce qu'on a fait auparavant. Et ensuite, après, là, on peut dire à l'autre, alors, finalement, toi, bon, on était deux, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Et là, l'autre, il doit aussi réfléchir. Et seulement à ce moment-là, et seulement dans cette configuration-là, pourquoi finalement, il a suscité cet abandon? Et puis alors après, ils doivent réfléchir sur leur relation. Et là, c'est très intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que dans ce genre de situation, il y a deux patients à soigner. Il y a trois patients. D'abord, il y a un premier patient qui est un premier groupe de patients qui sont le mari et la femme. Donc ça, c'est les deux. Ils ont tous les deux un problème ici, donc avec des temps différents, mais il faut gérer. D'accord? Lui, pourquoi t'as trompé? Pourquoi t'as défait? Toi, ici, le trompé, le trahi, pourquoi? Donc d'abord, laisser la place au pardon si tu veux pardonner, donc, et c'est un processus, et ensuite après, réfléchir aussi sur ton histoire. Donc, ça, c'est les deux. Ensuite, après, il y a le couple, en tant que couple. D'accord? Comment il a fonctionné, ce couple? Sur quoi il s'est formé? Quel était le dit et le non-dit du couple? Puis ensuite, il y a une troisième chose, parfois, c'est la relation. La relation, c'est le patient, parfois. C'est la relation qui peut causer. De quoi elle était faite, cette relation? Vous voyez? Très souvent, c'est ça qui qu'il faut arriver à soigner, qu'il faut arriver à cerner. Il y a une relation qui s'est nouée. D'abord, un couple, il peut avoir plusieurs phases dans sa relation. Et il y a plusieurs phases qui génèrent un certain nombre de problèmes ou qui, au contraire, vont générer de l'entente. Donc, souvent, le patient, c'est la relation. Et ça, vous voyez, eh ben, il n'y a qu'un thérapeute du couple qui peut le faire. Il n'y a qu'une personne qui est avisée qui peut le faire. Parce que, finalement, les gens ne sont souvent même pas au courant de ce que leur attitude a pu générer. Ou en tout cas, quand ils le conçoivent, dans la culpabilité et ça ne sert à rien. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que si on décide de rester ensemble, alors on est capable d'ouvrir une nouvelle dynamique. C'est-à-dire d'être capable de regarder sa vie de manière complètement nouvelle. Alors, comme j'ai dit, il y a un processus. Il ne faut pas négliger le moment de ce processus. Ça qui est important, le changement du côté de celui qui a trahi, un changement profond, réel, et également du côté de la personne qui a été trahie ou trompée, la possibilité après d'évaluer sa part dans ce processus seulement à ce moment-là. Et puis ensuite, les deux, reconstruire leur relation, réédifier leur relation, la retravailler. Évidemment, tout ça n'est possible que si on est totalement fidèle à l'alliance thérapeutique qu'on va passer, qui est effectivement d'avancer dans ce processus. Parce que si on vient chez le thérapeute, on dit à l'autre oui, et puis en fait, pendant tout, on fait autre chose, on a tous compris que c'est impossible et qu'on ne peut absolument rien faire et que ceux-là iront à leur destin, à leur triste destin. Voilà. À très bientôt.